Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h. Ici, soutient la musique locale.
Les habits du dimanche, Gentleman Driver. La clarinette voluptueuse, la contrebasse tonitruante, le piano endiablé, la guitare entraînante et les voix des habits du dimanche racontent des histoires remplies d'humour et de légèreté. Des compositions rythmées pour claquer des doigts, taper du pied et plus si affinité. Gentleman Driver, les habits du dimanche. Un coup de cœur ici même. Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Occitanie.
Bienvenue, ça va Sébastien ?
Eh ben ça va bien, merci Claude de m'accueillir chez vous ici à Ramonville. Vous avez créé une chaîne YouTube qui s'appelle Les Fous du Joystick.
C'est ça.
Vous êtes tétraplégique vous ?
Non, je suis quadriplégique Sébastien.
C'est quoi ?
C'est-à-dire que la quadriplégie, c'est les bras bougent quand même, mais ils sont paralysés. Alors que le tétraplégique, il bouge pas du tout. Il bouge que la tête. Voilà.
Quadriplégique de naissance ?
Oui, c'est ça. C'est une tête de naissance. Je suis né prématuré. J'ai fait un arrêt respiratoire à la naissance qui a causé des lésions au cerveau et des lésions irréversibles.
Alors vous, ce qu'il y a de beau, Claude, c'est que vous voulez transmettre votre quotidien et vous le faites via votre chaîne YouTube. C'est quoi votre quotidien ?
En fait, le quotidien, c'est que je suis assisté par des assistantes de vie absolument magnifiques, dont Lily qui est juste là. Et en fait, j'ai une équipe de 5 auxiliaires de vie et elles se relaient pendant 16 heures par jour. Parce que 16 heures par jour, c'est le quota que m'a octroyé la MDPH. Voilà.
Alors, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et dis donc, vous êtes allé à la plage cet été?
Oui, et ça a été assez mouvementé et folklorique parce que il a fallu me porter jusqu'au bord de la plage parce que j'ai voulu me baigner. Et en fait, comme il n'y a pas d'infrastructure à l'arbre, il n'y avait pas de tir à l'eau, et ben en fait, Lily et Elias ont dû le faire à un bout de bras.
Vous y allez souvent à la plage ?
Non, pas du tout. C'était la première fois depuis 35 ans. Et donc.
Mais pourquoi autant de temps ?
Parce que, j'ai pas d'argent, parce que quand on est handicapé, ben on a juste de quoi vivre, voire survivre. Et donc, pour aller en vacances, il faut des sous, il faut louer un véhicule adapté pour rien qu'aller à l'arbre. Et en fait, comme on n'a pas de sous, on l'attend.
La confiance qu'il faut, d'abord en soi, pour être montrer son quotidien sur une chaîne YouTube, et puis envers les autres.
Alors la confiance, elle n'arrive pas tout de suite. Sébastien, elle s'acquiert avec la maturité, parce que dans la société française qui est la nôtre, on n'est pas là pour vous donner confiance, on est là pour vous assister. Il y a des remarques qui font mal. Donc la confiance, elle s'acquiert avec la maturité et la sagesse.
Merci beaucoup Claude de m'avoir reçu chez vous.
Merci à vous de m'avoir écouté et de m'avoir donné votre micro.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Picardie.
Ils sont jeunes et ont un avis sur tout. Ici Picardie donne la parole au Tchopicard. Annick Bonhomme.
C'est quoi la confiance en soi ? Bah, si t'as pas confiance en toi, c'est tu dis je fais mal mes trucs, alors que bah faut se dire j'ai confiance en moi, je vais réussir mon truc et tout.
La confiance en soi, c'est pas forcément bah se dire je vais réussir forcément, mais se dire bah si je réussis pas c'est pas grave, mais si je réussis c'est bien, il faut que je fasse de mon mieux.
Avoir confiance en soi, c'est par exemple on sait qu'on sait faire cette chose, mais on a peur on va pas réussir en fait. Et après il y a des gens, la confiance c'est une émotion en fait. La confiance en toi, par exemple, tu peux sauter à l'élastique d'un immeuble.
C'est avoir une confiance dans ton corps et te dire tu vas le faire et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu recommenceras si tu veux. Par exemple, tu dire bah, j'aime bien ce pantalon, si on se moque de moi, c'est pas grave, je m'en fiche, je l'aime bien. Enfin, moi, c'est tout l'inverse, quoi.
T'as pas confiance ?
Non, quand j'étais plus petite, j'avais pas très confiance en moi.
Pour moi, la confiance en soi, bah, tu t'en fiches du jugement des autres, parce que les autres, ils peuvent te décourager, mais toi, tu es défini parce que tu veux être. C'est pas les autres qui vont te définir. Exemple, hein, si tu veux devenir médecin et que les autres disent que tu pourras jamais y arriver, c'est si tu te décourages par les autres, tu vas pas pouvoir devenir médecin, même si je le voulais. Mais c'est seulement si tu crois en toi que tu pourras y arriver. Mais les autres, ils vont te décourager, ils vont faire tout leur possible, mais toi, tu vas réussir.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Mayenne.
À Laval, je vous emmène à la rencontre d'un musicien qui s'appelle Julien Gauthier et qui fabrique depuis un peu plus d'un an un instrument qu'on n'a pas l'habitude de voir ni d'entendre, la cigare box guitare. Ça très beau comme son, c'est justement ce que je lui fais remarquer en arrivant chez lui.
Bah oui, c'est ce qui m'a plu quand j'ai commencé ce projet. Le son m'a tout de suite emballé, donc je me suis dit, allez, il faut continuer, il faut en faire d'autres.
Alors, vous appelez ça une cigar box guitare. On n'est pas vraiment sur la boîte de cigares, hein, d'ailleurs, avec vous.
Bah oui, mais bon, pour l'instant, guitare bidon, je ne sais pas si c'est très vendeur.
Parce que vous utilisez des bidons d'huile à la place.
C'est ça, ce sont des bidons en fer blanc, d'huile, des bidons anciens. Et puis, moi, ce qui me plaisait, c'était surtout le côté recyclage.
Ça fait un an que vous avez lancé votre activité. C'est venu comment? Comment c'est né?
Eh bien, pareil, j'avais vu des cigar box, des petites guitares en boîte de cigares. Et puis, en discutant comme ça, avec un ami, puis en regardant à gauche à droite ce qui se faisait, l'idée de la boîte en fer blanc s'est imposée, en fait.
Parce que même dans l'histoire de la musique, elles ont leur importance, hein, ces cigar box.
Bah, les cigar box, oui, c'est l'instrument rudimentaire des musiciens de blues fabriqués avec ce qui traînait dans la rue, quoi, un manche à balai, une boîte de cigares vide et une corde et c'était parti, quoi.
J'ai l'impression qu'on peut faire vraiment plein de choses en termes de son, c'est le cas.
Ben c'est ça, c'est vraiment fait pour faire du blues, et puis notamment quand on rajoute le bottleneck. Donc
Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, vous venez de rajouter quelque chose sur votre petit doigt.
Oui, c'est un goulot de bouteille que je coupe moi-même et qui permet de glisser sur les cordes et de produire ce son-là. Voilà, c'est un son typique du blues qu'on connaît bien, quoi.
Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est plus facile à jouer cet instrument que la guitare classique. Parfait pour les débutants. Je demande donc à Julien Gauthier si je peux lui emprunter son instrument.
Avec grand plaisir.
Allez, on y va. Je m'assois quand même, c'est mieux, on est d'accord.
Oui, ça va être mieux.
C'est parti, allez hop. Tremble, Jimi Hendrix. Bon, ben, je préfère quand c'est vous qui jouez, en fait, Julien. Hein, c'est mieux quand même.
Oui, mais il faut un tout petit apprentissage quand même.
Pour en savoir un peu plus sur cet instrument, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On vous partage une vidéo en compagnie de Julien Gauthier et de ses cigar box guitare. Julien qui propose aussi des ateliers pour fabriquer soi-même son instrument.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
Pardonnez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable.
Podcast. Un podcast ici Bourgogne.
Le vin, ça prend du temps. 18 mois en général en Bourgogne avant d'être mis en bouteille. En ce moment, le millésime 2024 finit son élevage en fût comme à Beaune chez Philippe Pacalet. C'est dans le calme de ses caves qu'il nous raconte les notes aromatiques de son Gevrey 2024.
Donc là, on a changé de cave. On est plutôt sur du 2024, c'est ça ?
On est sur des 2024 rouges.
Attendez, vous voulez que je prenne votre micro ? C'est peut-être plus pratique. Hop, voilà. Donc là, vous avez ouvert le tonneau. Vous plongez la...
la pipette. Et on se retrouve avec un misime classique. C'est pour ça qu'on voit. On a une belle robe rubis, Gevrey Village. C'est quatre parcelles différentes. Gevrey, c'est toujours beaucoup de fruits. Hein. Ça fait un vin assez gourmand et toujours beaucoup de structure. Il y a les deux. Si on prend 10 personnes, toujours 7 qui l'apprécient. On va les soutirer pour les mettre en bouteille l'année prochaine.
Quand vous dites préparer, ça veut dire que...
on a mis un bouchon.
Ça, hein. Donc là, c'est le bouchon qui est à l'intérieur du...
Voilà, après on met le robinet.
D'accord.
Parce qu'on n'utilise pas de pompe, on fait par gravité. Ça évite d'aspirer le vin, c'est moins stressant.
C'est plus doux.
Voilà.
Ah, on peut stresser des vins.
Ouais, c'est de la matière vivante. Hein. C'est comme nous, ça évolue. C'est un peu à l'image de l'homme, le vin. C'est un produit culturel. Il y a beaucoup de points communs.
Donc il faut lui apporter beaucoup de douceur. Ouais.
Même si la forme du vin, là, c'est le tonneau après la bouteille. Nous, on a un squelette, c'est différent. Mais c'est une construction différente.
Oui, mais nous, on se trimballe avec le même squelette toute la vie.
Voilà.
Et eux, ils changent de squelette quand même.
Mais on ne grandit plus à partir de 21 ans, normalement.
Non.
Alors que les vins, dès qu'on les a mis en bouteille, ils grandissent, mais différemment, parce qu'ils sont aussi coincés dans cette bouteille.
C'est pour ça qu'on a cette forme de tonneau, finalement, parce qu'on aurait pu mettre ça dans des cubes, finalement. Enfin...
C'est un œuf coupé au deux bouts. L'œuf sous la terre, la gestation, enfin, il y a toujours une jolie philosophie avec tout ça, mais c'est... Hein, il y a un sédiment qui se forme au fond du tonneau, qui s'appelle l'ali, donc quand vous remuez le tonneau, ben, ça remélange, ça dynamise, quoi. C'est un peu comme un bébé avec son placenta, quoi. C'est, il y a une naissance. Et ça protège le vin, donc ça dure un certain temps. C'est pour ça qu'on doit soutirer. J'ai un rôle protecteur et nourricier. C'est bien fait, quand même.
Philippe Pacalé à Beaune est le papa de 50 000 bébés, quand même. Bouteilles par an, c'est pas rien. Et ça fait partie de la fierté de notre région.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Cotentin.
Il y avait des maîtres charpentiers, en fait, hein, qui, eux, connaissaient à peu près les formes des bateaux et qui étaient réputés pour ça, justement. Il y en a qui avaient le savoir-faire de faire naviguer un bateau sans plan. Et c'était quelque chose qui était très recherché à l'époque. Ouais. Chaque type de carène va avoir son utilité, on va dire. Si vous prenez, on va repartir
sur... Restons sur le Doris.
Sur le Doris, voilà, qui est derrière nous. Ça, c'est un bateau qui est originaire d'Amérique, voire Canada. En fait, ils s'en servaient pour traverser les lacs gelés. Et donc, c'est un bateau qui a été ensuite emmené sur les Terre-Neuve.
Les Terre-Neuve, ouais.
Parce qu'ils étaient très faciles à empiler. On voit bien la forme, hein, un peu conique, en fait, qui permet de les empiler les uns sur les autres. Et nous, on l'a adapté à nos plages après. Parce qu'on avait des plages de sable et pour débarquer sur les plages, ben, c'était assez facile.
Là, on est sur l'île de Tatieu. Il y a aussi des bateaux très anciens. Certains, enfin, il y a eu la bataille de la Hougue, il y a eu des bateaux comme ça. Qu'est-ce qui faisait la particularité de ce type de bateau en termes de charpente?
La carcasse qui est sur la pelouse, par exemple. Il fallait 1200 chaînes, à peu près, pour faire un vaisseau comme ça. Faut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait une centaine de bateaux sur l'eau. Et sachant que c'était un des plus petits, vous imaginez le nombre de chaînes qu'il y avait pour construire la flottille française, en fait.
Il fallait beaucoup de forêts.
Donc, il fallait énormément de forêts, ouais.
Là, c'est des bateaux qui n'ont pas de mâts. Vous avez été amené à travailler sur des mâts, par exemple. Et si oui, de quelle façon?
Oui, ça m'est arrivé d'en refaire plusieurs. Ouais. Non, c'est pas si compliqué que ça, c'est long. Il y a juste une technique de traçage, en fait, à connaître. Donc là, vous pouvez regarder derrière, il y a un aviron. Hein. Déjà, il faut essayer de trouver le bois qui va bien, c'est-à-dire avec le moins de nœuds possible, le plus léger possible. Et puis après, on va coller. Et on va toujours partir d'un carré, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on va coller des morceaux de bois entre eux, de manière à obtenir un carré. Et après, ce carré, on va l'arrondir.
En supprimant les arêtes petit à petit.
Voilà.
Et là, ça nous donne un mât.
Au rabot à main. Non. Et puis, on finira au papier de verre. Donc là, c'est sur toute la longueur, avec le petit rabot enlevé millimètre par millimètre.
Combien mesure cet aviron, en fait?
Il doit faire 3,50 m, je crois. Vous voulez que je vous montre? On va venir enlever l'arête, en fait. Et on va faire un copeau qui va faire toute la longueur de l'aviron. Donc le copeau va faire, alors là, peut-être pas 3,50 m, mais il va bien faire 2,20 m. Ouais.
Donc il faut un rabot bien affûté, je suppose.
C'est la base. Voilà, pour finir d'arrondir, on va prendre une bande de papier de verre, et dans le travers, on va poncer comme ça. Ça va arrondir parfaitement la surface.
Mais le papier de verre, donc, vous l'utilisez, mais vous me disiez que ça existait déjà avant?
Effectivement, avant, on utilisait de la peau de roussette, par exemple. Un petit requin, la peau est très granuleuse, en fait, dans un sens, et c'est très abrasif. Donc c'est un des premiers papiers de verre qui a existé.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
À Dichat. Passeillade.
Les Modocs.
Le Smooth Doc.
Adieu Mia.
Adieu.
Quintebas.
Kivopla.
Kwawai Loutem Way.
Way Loutem Kei Passeillade.
Donc quand t'étais petite, il s'est passé quelque chose.
Kwaneri Petite. Kari Anna Mepaseya Hayu Paseyada Shibao Daplus Mespais. Donc quand j'étais petite, je suis partie faire une balade à cheval avec mes parents. Donc Ibam Ha la Paseyade a eu moment qui loseways qui baden rouille et qui gonfle. Et donc quand je me baladais avec le cheval, j'ai les yeux qui ont commencé à devenir rouges et à gonfler. Et du coup, biske kumel sena gonfla her Kibam à l'hôpital et Kibam découvrit Kari allergique aux animaux d'apeus. Et du coup, Kimal Hikat. Eu médicament en l'oeil et du coup à dar cannabis vieille après. Et du coup, vu qu'il commençait à beaucoup gonfler, on est allé à l'hôpital et ils m'ont mis un médicament dans l'œil parce que c'est mes yeux qui avaient commencé à gonfler. Et ensuite, du coup, ça avait dégonflé. À dar, il y a passé à long terme, ce qui est tu le serras de pyjama d'appui amig et quand même mes pièces photos et cadu de sus une photo d'aquest facéiade où la bébé est allergique et qu'a crédit qui mérite presque loupé d'Oshiba ou d'Enway. Il n'y a pas très longtemps, du coup, j'ai fait une soirée pyjama avec une amie et on regardait les photos et on est tombé sur la photo du coup de cette allergie et elle a cru que je m'étais pris le pied du cheval dans l'œil.
Qui est terrible, tout à coup. Merci, Smia.
D'aplasé.
Adieu.
Adieu.
Les mots doc.
Les mots doc.
À retrouver en podcast sur l'appli ICI.
ICI.
ICI. Vous écoutez ICI.
C'est 100%.
100% chanson française.
Salut, ICI. C'est Manon Lisa. On écoute ensemble ma nouvelle chanson.
Le petit pêcheur. Le nouveau titre de Manon Lisa.
Un coup de cœur ICI.
C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin. Parce que pour lui, le bonheur, c'était d'être avec les siens. Profiter de sa famille, les arder sur le sable. Regarder grandir ses filles, les après-midi, au calme. Un jour qui se reposait, à côté de sa barque. Une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port, alors qu'au fond de la mer, tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taf sans compter tes heures. Avec l'argent que t'en tires, t'achèteras un moteur. T'iras pêcher au large, tu feras plus de marge. Bientôt t'auras 10 bateaux, des bâtiments en béton. Crustacés, cétacés, finiront tous entassés dans les filets carnassiers de tes chalutiers en acier. T'écouleras tes stocks en faisant des filets aux fiches. La moula que tu croques, faudra pas la filer au fisc. Elle a un port, export, dans les dollars tu nageras. Les fonds marins seront morts, mais t'auras une vie de roi. C'est quoi pour toi une vie de roi, dit le pêcheur. Une vie de roi, c'est pouvoir pendant des heures profiter de ta famille, les arder sur le sable, regarder grandir tes filles, les après-midi au calme. Mais c'est déjà exactement ce que je fais. Et le pêcheur s'en alla en fredonnant ce refrain. J'aime, j'aime quand la vie est facile. J'aime, j'aime quand le soleil brille. J'aime, j'aime quand l'amour nous fait signe, souffler sur tes cils. J'aime, ivre de j'aime, j'aime quand tout me fascine. J'aime, j'aime que tu m'aimes aussi. Oui, j'aime. Gagne ta vie comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
ICI, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ICI Provence.
Moteur !
Allez, on se lève !
Hé, c'est quoi le texte ? C'est ma France, hein ? C'est moi qui l'a dit tout le temps.
Action !
Je passais le plus clair de mon temps au cinéma Le Star.
Coupé ! Elle était bien celle-là.
Pou, pou, pidou.
Septembre 1981, Claude Zidi pose sa caméra à Saint-Tropez pour réaliser son prochain film, Les Soudoués en vacances.
Ceci est un love computer expérimental qui permet de savoir si deux êtres sont faits l'un pour l'autre. Établissons le contact. Sur l'écran, nous pouvons lire, grâce à un système de décodage ponctuel, ce que serait leur vie commune. Imaginez l'impact.
C'est l'été à Paris, et Bébel doit partir aux Seychelles avec sa petite amie. Mais la belle s'envole avec un autre. Désœuvré, il sert alors de cobaye au Love Computer, un appareil que Paul Memphis, chanteur et producteur de disques, utilise pour tester l'effet de ses chansons sur des couples en train de danser. L'ordinateur détecte alors un fluide très favorable entre Bébel et la belle Claudine.
Ils sont faits l'un pour l'autre et ils le savent pas encore. Moi, je le sais déjà.
Vous venez souvent ici?
Non, c'est la première fois.
Hein? Pas en ça que vous êtes ici?
Non, il me croit aussi cher.
Sans blague, moi aussi.
Après de nombreux succès depuis le début de sa carrière de cinéaste, avec notamment Les Charlots, Claude Zidi connaît son premier flop avec son film Bête mais discipliné. Endetté et le fisc aux trousses, il lui faut trouver la martingale. Il cherche alors à renouer avec la liberté de ses débuts, avec un film au budget moindre qu'il va produire lui-même. Ce sera Les Soudoués passent le bac.
Demain, quand on tombe une fille va revenir, il sera de bonne humeur. Alors à ce moment-là, je lui demande d'avancer mes vacances de 48 heures. Et à ce moment-là, toutes les deux, on part direction le soleil. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Boîte de nuit tous les soirs, draguer comme des malades, tu rencontres l'homme de ta vie et tout est arrangé.
Le film attire 4 millions de spectateurs et renfloue les caisses. Il songe alors à une suite. Ainsi sort 2 ans plus tard Les Soudoués en vacances. Et si le film se passe à Saint-Tropez, ce deuxième volet aurait pu avoir un tout autre décor. Dans un premier temps, Zidi et son scénariste Didier Kaminka ont des envies d'Amérique et envisagent d'envoyer leurs Soudoués à New York.
Tournée sera
sous le signe de l'amour. Exclusivement, le thème en sera la recherche de la fin de ma vie. Je ferai monter sur scène des spectatrices et elles essaieront avec moi le Love Computer.
Si le film est un nouveau succès dans les salles, c'est surtout une chanson qui va faire sa renommée. Destinée, dont la musique est composée par Vladimir Kosma, sur des paroles du comédien Guy Marchand lui-même et de son complice Philippe Adler. Une chanson qu'il crée d'abord comme un gag à la demande de Zidi.
On a écrit avec Kosma une connerie. Et d'ailleurs, on était conscient d'écrire une connerie. Parce que Destinée, entre nous, c'était une charge de l'été indien. Je me moquais du tube de l'été, le saucisson de vacances. Bon, alors, on a écrit ça, Kosma, quand même. On peut pas douter de son talent.
Résultat, et contre toute attente, la chanson devient un tube. Et même le slow de l'été 1982.
Destinée, depuis longtemps j'avais deviné.
Mais le film n'aura pas que des fans, à commencer par Brigitte Bardot. Dans une scène, Bébel et sa bande arnaquent des touristes en affrétant un bateau qui s'arrête devant la Madrague. Et en envoyant une jolie jeune femme, très dévêtue, se baigner en faisant croire qu'il s'agit de bébé. Sauf qu'après la sortie du film, plusieurs compagnies se mettent à proposer de croiser au large des résidences de stars, au mépris de leur tranquillité.
Hey, c'est loin encore, Bardot.
Yeah. Non, on va y arriver. Mais en attendant, vous pouvez regarder la maison de Paul Newman, là.
La Madrague ne sera plus jamais vraiment abandonnée.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Lorraine.
Notre Lorrain du jour est originaire d'Algrange. Il a grandi du côté de Nilvange après une expérience de pompier volontaire, puis pompier militaire dans l'armée de l'air. Il a décidé de se lancer en 2026 un nouveau challenge. Bonjour Florian Pulara.
Bonjour Jérémy.
Vous avez décidé de monter sur scène et de proposer un spectacle d'hypnose. Est-ce que ce rapport aux artistes que vous avez déjà côtoyé dans votre passé vous a donné envie de monter un peu plus sur scène ?
Ouais, on va dire que ça encourage. On prend aussi l'expérience de autant l'arrière-scène, les coulisses, et puis de voir les artistes sur scène. Et franchement, je m'étais pas mis ça comme objectif. Je pense qu'il y a un an en arrière, si on m'aurait posé cette question, je pense que j'aurais dit clairement non. Je me serais pas vu sur scène, en fait.
Quel a été le déclencheur ?
Et ben alors, tout simplement suite à une formation que j'ai fait en hypnose. Et j'ai commencé à faire de la street hypnose, donc dans la rue, ou à des fêtes de voisins, fêtes de famille, des soirées privées. Et du coup, je me suis dit, ben pourquoi pas écrire un spectacle et monter sur scène, tout simplement.
Le titre de votre spectacle, Moi non plus, je n'y crois pas, peut interpeller. À qui s'adresse-t-il en priorité ?
Alors, il s'adresse à tout le monde. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Je pense que justement, les gens ont besoin de rire et de voir un peu l'hypnose autrement. Et qu'ils aient pas peur de venir voir justement le spectacle et qu'ils passeront un super moment avec bien sûr pas mal de rire pendant le spectacle.
Que représente pour vous le fait de jouer à Nilvange au Gueulard ? Vous êtes presque à domicile, il y aura j'imagine les amis, la famille, ça ajoute un peu de pression tout de même ?
Ça me tenait à cœur de commencer cette tournée 2026 à Nilvange. Et je pense, oui, qu'il y aura de la famille qui ont déjà réservé leur place, des amis aussi. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir jouer au Café Culture Le Gueulard à Nilvange.
C'est vrai qu'il y a des personnes un peu plus réceptives que d'autres à l'hypnose. Où est-ce que c'est accessible à tous, finalement ? Vous ressentez les personnes qui ont un potentiel de réceptivité, entre parenthèses ?
Oui, on arrive à savoir un peu qui est plus ou moins réceptif. Et après, ça va dépendre de la personne, dans le milieu où elle se trouve, avec qui elle se trouve. Il faut aussi qu'il y ait une confiance avec l'hypnotiseur. Mais tout le monde est réceptif.
Est-ce que votre passé de pompier, votre sens des responsabilités, influence votre manière de pratiquer l'hypnose ?
Je pense qu'un petit peu. Il y a un fond aussi, puisque l'hypnose est aussi maintenant beaucoup utilisée pour le médical, pour soulager l'anxiété, les angoisses, diminuer les douleurs, donc plein de choses comme ça. Et je pense que même sur scène, quand on est en spectacle, il faut quand même être vigilant aux personnes qu'on a sur scène. On en prend soin sur scène aussi également, même si on rigole. On a toujours ce petit œil observateur et puis d'ange gardien.
Il faut de la bienveillance aussi sur scène. Hein.
Tout à fait, c'est de la bienveillance tout en s'amusant et en restant correct avec le public pour pas qu'il soit humilié ou beaucoup pensent qu'il y a parfois de la moquerie. Et là, au contraire, j'ai exprès fait un scénario où les gens se sentent à l'aise et ils voyagent en fait dans un univers particulier.
Eh bien, vous allez pouvoir passer une très belle soirée. Merci à vous, Florian Pulara, d'avoir été notre Lorrain du jour. À bientôt.
Merci beaucoup.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Vaucluse.
En 1994, c'est bien simple, en cette journée du 4 juin, c'est tout Carpentras qui attend la rockstar. Allez vous enfiler votre blouson de cuir, montez sur votre Harley Davidson, la balade commence. Et il faut remonter à 1992 pour bien comprendre la venue de Johnny Hallyday chez nous. C'est à cette date qu'il fonde avec un ami son premier groupe de bikers, les HDC Desperados. Ouvert à tous, et tous ceux qui ont une Harley Davidson, l'association va se rassembler à Carpentras pour la première fois, donc 2 ans plus tard, en juin 1994. Carpentras, bah oui, parce que l'un des meilleurs amis de Johnny Hallyday, c'est Joe Rodriguez. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce carpentracien de naissance est le garde du corps de Johnny Hallyday pendant 5 ans. Et c'est vrai qu'il partage, comme Johnny, la passion des Harley. Ils ont même des tatouages en commun. En ce 4 juin 1994, notre ami Joe Rodriguez se marie.
Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage.
Et il choisit qui en témoin ? Bah Johnny Hallyday. Et voilà, c'est comme ça que Carpentras voit arriver depuis le Var des milliers de motos, tour de ville, mairie de Carpentras, centre-ville, c'est juste la folie. Ce que vous entendez là, c'est un extrait du reportage d'une chaîne câblée de l'époque qui suit le voyage de Johnny et de ses copains bikers. Cette visite aux allures de chef d'État impressionne une partie des Carpentrasiens. Et d'ailleurs, il suffit de parler aux commerçants et aux habitants d'aujourd'hui pour comprendre ce souvenir de cette journée juste dingue. En fin de journée, Johnny, au bras de son épouse à l'époque, Adeline Blondeau, et de son producteur Jean-Claude Camus, prend la direction de l'hippodrome Saint-Ponchon où se déroulent les courses hippiques. Là-bas, c'est presque 30 000 personnes qui l'attendent. Un mini-concert est organisé et Johnny, bah, faut le dire, il s'éclate. 6 titres chantés par la star qui est ensuite rejoint par le guitariste Paul Persson. À l'époque, c'est l'animatrice Sophie Favier qui présente ce concert. L'entrée est de 50 francs et pendant 3 jours, c'est juste la folie. La fête ne s'arrête pas. Johnny partira avec Adeline en hélicoptère à la fin de ce week-end. Alors figurez-vous que j'ai pas mal cherché et ce n'est pas la première fois que Johnny chante à Carpentras. Il était déjà venu en 1961. À l'époque, il se produisait place de la mairie dans un tour de chant organisé par l'association des commerçants. Il était alors âgé de 18 ans.
Ici,
actu local, musique et bonne humeur.
Strade. nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Isère.
Dauphinoise, Dauphinois, bien le bonjour. Aujourd'hui, un village dauphinois extraordinaire. D'abord parce que son nom, contrairement à la plupart des communes de l'Isère, qui se termine en Ye, en On, en Ain, en An, se termine, lui, par F. C'est rare, F. Alors, entre Bourgoin et Saint-Savin, que nous avons visité récemment, Saint-Chef. Ah, Saint-Chef, cette fabuleuse cité abbatiale est célèbre pour ses édifices historiques et pour être le berceau de personnages historiques comme Louis Seignier, de la Comédie Française, Frédéric Dard, le fameux créateur de San Antonio, et la famille Buyat, qui est la famille de ma femme, voilà. Alors, moins connu, d'accord, que les deux autres, mais je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. D'accord, les Buyat n'ont pas écrit de livres, joué à la Comédie Française ou construit des abbayes, mais les agriculteurs dauphinois méritent aussi qu'on les cite. Ah non, bon, surtout quand ils font partie de la famille. Salut les Buyat, salut, et salut aux Saint-Chefois et Saint-Chefoises. Ah non, c'est dur à dire, Saint-Chefois et Saint-Chefoises, c'est vraiment dur à dire. Hein. Bon, je laisserai à d'autres la mission de vous parler de l'abbaye, des églises et autres monuments. Moi, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, la taverne rustique. À chacun son boulot. La fameuse taverne rustique de Saint-Chef, dans laquelle le Frédéric Dard passait de longs moments. Tu m'étonnes, le Frédéric était plus porté sur la bibine que sur les bondieuseries. Ça tombe bien, pareil, tout pareil. On aurait pu s'y rencontrer. Ah, j'aurais bien aimé rencontrer le Frédéric Dard, mais bon, il est parti avant que j'arrive. Bref. Ah, la collection de nains de jardin de la taverne rustique. Ça aussi, c'est de l'art. Pas de l'art roman, d'accord, mais du lard tout court. Je vous conseille le menu gastronomique à 26 euros. Ah, vous avez bien entendu, c'est marqué. Entrée, plat, fromage, dessert, 26 euros. Ah ouais, ouais, entouré de nains de toutes les tailles. Eh oui, il y a des grands nains de jardin et des petits nains de jardin qui nous sourient en nous regardant manger sous les arbres du jardin. Vous suivez, c'est merveilleux. C'est aussi ça, Saint-Chef. C'est chez la Monique. Chez la Monique, on s'est accueillis. Ouais, une autre gueule, la Monique de Saint-Chef. Ben oui, la taverne rustique. Je vous conseille un dessert. Le dessert, c'est le vacherin glacé fait maison. Alors, j'insiste, hein, fait maison. La portion, je vous le dis, fait 20 cm de hauteur, 5 cm d'épaisseur, à peu près, voilà, comme ça. Hein. Voilà, du vacherin dauphinois. Pas de la petite portion fabriquée en grande surface et en petite épaisseur. Ouais, une autre gueule encore. Comme disait mon grand-père, ou celui de ma femme, ou Frédéric Dard lui-même, peut-être, je sais pas. La vie est courte. Commençons par le dessert. Allez, vive Saint-Chef, vive le Dauphiné, puis tous ensemble, je vous entends cette fois-ci. Hein. On n'est pas des carbèmes. Il y en a qui ne l'a pas dit au fond.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici RCFM.
Le premier métier de Jean-Noël Pompe, terrissait l'agriculture. Il continue à perpétuer à Ghisonaccia le savoir-faire familial.
On avait par le passé des grandes cultures, que ce soit maïs, fourrage et tout ça, qu'on a laissé tomber doucement pour des raisons qui nous sont propres, pour développer la viticulture et l'arboriculture. Vigne, viticulture à la cave d'Aguillon, arbo, donc clémentine et avocat, production bio à la Capique.
Jean-Noël et sa compagne ont eu l'opportunité il y a quelque temps de se lancer dans la restauration en reprenant à Merendel un établissement à Miatcha.
C'est vrai, c'est quelque chose qui nous a toujours, ma compagne et moi, qui nous a toujours plu, qui nous a toujours attiré. Et quand on a su que cet établissement était en vente, voilà, on s'y est intéressé parce qu'on a trouvé que c'était malgré tout, on n'y venait pas spécialement, honnêtement, mais c'est un endroit qui nous plaisait, qui nous a toujours attiré de par son emplacement, son histoire aussi, parce que c'est un vieux restaurant quand même. C'est pour ça qu'on n'a pas souhaité changer le nom. Cet endroit, ça a toujours été la Merendel. Ça me paraissait cohérent que ça reste la Merendel.
Le couple de restaurateurs travaille les produits régionaux.
Principalement sur les produits régionaux du local. Voilà. Parce que c'est vrai que de par notre activité, on connaît beaucoup de monde, on connaît des maraîchers, on connaît les pêcheurs, on connaît les producteurs, voilà, les agrumiculteurs, tout ça. Donc, et c'est vrai que ce côté contact direct avec le producteur, c'est toujours sympa en fait. Et même de le mettre en relation avec les clients, ça arrive des fois qu'on ait on prend de la charcuterie à Vetsagne, Paul Fante, il est Vetsanaise, qui en a mis à moi. Et des fois, quand il vient manger, c'est sympa de dire aux gens, voilà, le prix de tout que vous mangez, il vient de chez lui.
Jean-Noël travaille aussi les produits issus de son exploitation agricole.
On travaille après l'avocat, quand il y a nos avocats qui sont là, on le travaille beaucoup, pendant à peu près 3 mois. On travaille aussi, voilà, la base d'agrumes qu'on fait nous, les clémentines principalement. Et oui, on a un assez grand jardin aussi, sur Maison Pirage. J'habite là-bas, qui est pas loin de la maison. Et on a pas mal de légumes qui viennent du jardin. Pas tout non plus, hein, bien sûr. On prend chez Caroline Médor, à côté le jardin du Fumour, ou chez les grossistes aussi. Hein. Mais voilà, là par exemple en ce moment, c'est les butternuts, les potimarrons. Là, j'ai encore des aubergines en plein champ. Hein. C'est pas du bio, mais c'est du naturel.
Parmi les espoirs de Jean-Noël Le Pont, Thierry, attirer de nouveaux clients et maintenir son activité commerciale.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Besançon.
Ici Besançon.
Premier sur l'actu locale en Franche-Comté.
Ici Matin.
Allez, on passe côté helvétique avec David Aubry qui nous rejoint. Bonjour David.
Bonjour Louise, bonjour à tous.
Un artiste genevois vient d'avoir une drôle de surprise.
Absolument. Alors si vous vous promenez dans les bois du côté de Genève, vous pourriez tomber sur un espèce de dragon serpent de 4 mètres ou encore un buste de femme.
Mmh.
Alors rassurez-vous, rien de fantastique ou rien de gore, c'est juste des sculptures réalisées sur du bois mort par un artiste local. Le Jacques Baume, un sympathique retraité, il aime en effet jouer de la gouge et du ciseau à bois. Alors il s'est dit, je vais faire profiter de mes passions aux promeneurs. Eh ben, mauviette pioche, Jaco, il y a un truc qu'il a oublié, les fonctionnaires suisses. Ils ont la tête dure comme du bois, et quand ils disent non, eh ben c'est non.
Ah pourtant, ces œuvres, elles ne gênent personne, David.
Ben c'est clair que pour l'instant, pas un chevreuil ou un écureuil ne s'est plaint, ni même les promeneurs, de plus en plus nombreux d'ailleurs, pour aller admirer ces œuvres. Oui, mais voilà, le Jacques, il a fait ça sans autorisation, dans une zone boisée appartenant à la ville.
Mmh.
Conclusion, il s'est fait engueuler par les gratte-papiers, et tout doit disparaître d'ici au 31 octobre. 4 mois de boulot, ça représente, par tous les temps, au fond des bois, du matin au soir, eh ben l'administration s'en fout. Après les outils de précision, il n'a plus qu'à sortir la tronçonneuse et foutre tout ça au feu.
Bon, la réaction officielle a été assez étonnante quand même. Hein.
Ça s'appelle la douche écossaise version suisse. Un petit coup de pommade pour commencer et un gros taquet pour finir. Je cite, nous tenons à saluer la qualité et la beauté des œuvres d'art réalisées. Cependant, conformément aux principes de gestion des espaces forestiers de la ville, aucune sculpture ni installation artistique n'est autorisée dans les forêts. Point final. La raison, écoutez bien, il faut rendre la nature à la nature. Un arbre qui meurt, ça sert de refuge à plein de petites bestioles, donc on n'y touche pas. Conclusion d'administration, on ne met pas la ville devant le fait accompli. Il n'avait qu'à demander. Et il conclut que s'il avait demandé, eh ben de toute façon, ils auraient dit non. Donc voilà. Le Jacques vient donc d'inventer, bien malgré lui, l'art forestier éphémère. Néanmoins, Loïs, il y a une chose qui est bien, c'est qu'il aura de quoi se chauffer cet hiver.
Oui, c'est ça. Bon, après, c'est quand même bien des heures de boulot foutues en l'air. Merci beaucoup, David, pour cette nouvelle anecdote. Je rappelle qu'on y retrouve toutes vos histoires sur l'application ici, puis sur ici.fr Besançon. Et puis moi, je vous souhaite un très bon week-end. On se dit à lundi.
Bon week-end à lundi.
À lundi, David.
Ici.
Actu local, musique et bonne humeur.
A fright had come in on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Find breakfast.
follow my soul. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land, land, land. Lead us low and mention me.
Profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici La Rochelle.
Aujourd'hui, on part à la découverte d'un gâteau que vous êtes nombreux à connaître. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, hein, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'épiphanie. C'est la galette charentaise, bien sûr. Un vrai morceau d'histoire avec un peu de beurre dedans. La galette charentaise, c'est l'une des spécialités culinaires les plus connues de notre région. Ce gâteau doré et moelleux est originaire de la Saintonge. Et l'histoire raconte qu'il serait né en 1848 à Burley. Un boulanger pâtissier nommé Henri-Victor Barrault. Eh bien, il a l'idée de créer ce gâteau à partir d'ingrédients simples, hein, que l'on trouve d'ailleurs plutôt facilement dans les Charentes, hein, de la farine, des œufs et surtout du beurre. D'autres faisaient sans doute des galettes du même genre, hein. Mais Henri-Victor Barrault, eh bien, il a un secret. L'angélique. L'angélique confite, en l'occurrence. Cette plante, l'angélique, elle pousse dans les marais de la région. Et c'est elle qui va donner cette saveur légèrement herbacée qui est caractéristique de la galette charentaise. À partir du XXe siècle, la production de galettes charentaises se développe. Et dans les années 1950, elle commence à voyager dans les deux Charentes et puis un peu partout en France, hein. Les biscuiteries locales en font leur spécialité dans le sillage de l'historique pâtisserie Burley. Traditionnellement, la galette charentaise, elle était réservée pour les grandes occasions, les mariages, les baptêmes, les communions. Mais aujourd'hui, on la mange un peu quand on veut. Il y a même des déclinaisons plus modernes avec des pruneaux, des pommes, même de la confiture. Le succès de la galette charentaise repose sur sa simplicité. Un gâteau un peu sablé, juste ce qu'il faut de sucre, et puis ce parfum d'angélique. C'est le goût des dimanches, des grandes tablées en famille ou entre amis, du café qu'on partage après le repas. Alors, certains la trouvent un peu sèche. Bon, c'est vrai qu'elle va plutôt bien avec une boisson chaude, voire avec un petit verre de pinot, mais avec modération bien sûr. Cette galette, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle raconte un territoire, hein. Les marais poitevins, la Saintonge et les biscuiteries artisanales. Alors bien sûr, à l'épiphanie, on mange frangipane ou brioche, mais dans les Charentes, on sait qu'il existe une autre galette qui, elle, mérite bien d'être célébrée toute l'année.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici, Pays d'Auvergne.
Bonjour, vous ferez attention, il y a une peluche qui vous suit.
Oui, vous avez vu, elle est magnifique ma peluche, hein.
Mais elle est vivante surtout.
Oui, oui, oui.
Elle bouge. Elle bouge et elle fait plein de câlins, c'est super.
Ça doit être bien, des câlins de chocho.
C'est ça.
Et un chocho?
Oui, c'est ça, ouais, exact.
Comment elle s'appelle?
Boubouille.
Oh là là, en plus il s'appelle Boubouille.
Ouais, ma boubouillette, elle est trop mignonne. Elle est trop
mignonne. Ah, c'est une fille?
Non, c'est un garçon, mais j'ai le droit de dire ce que je veux. C'est comme ça.
Ouais. Ça pourrait le perturber quand même dans son...
Non, parce qu'il est bien dans ses pompes. Il est bien dans ses pompes et il sait que il est ce qu'il veut. Voilà. Et c'est ce qui compte dans la vie, d'être ce qu'on veut.
Moi, je pense souvent, quand je vois des chochos comme ça ou des chiens qui ont vraiment beaucoup de poils,
ouais,
je me dis souvent, l'été, par contre, ils doivent un petit peu souffrir.
Ouais. C'est vrai qu'on a acheté une petite clim juste pour lui, pour pouvoir le mettre au frais, ouais, parce qu'on habite en centre-ville. Et c'est vrai qu'il a eu très, très chaud, quoi. Après, voilà, on essaye de le sortir au moment de fraîcheur. Et cet été, ça s'est bien canalisé. J'espère que l'été prochain, s'il ne fera pas trop, trop chaud. Sinon, on l'emmènera au pôle Nord et puis c'est tout. Je ne sais pas comment.
C'est l'occasion d'un voyage.
Exactement. Je ne sais pas comment on peut faire voyager un chouchou jusqu'au pôle Nord, mais ça doit se trouver.
Bon, oui,
tout est possible.
Ça se réfléchit, ça s'organise.
Exactement, ça s'organise.
Mais alors, je note hein, qu'au niveau de...
Oui, non, ne notez pas, les gens n'ont pas besoin de le savoir. Non, ne notons pas, un chien blanc n'est pas toujours blanc partout. On essaye de le laver.
Surtout quand il a des poils longs.
Exactement, tout s'accroche.
Figurez-vous que j'ai le cas avec mon chat.
C'est vrai? Ouais, ouais, ouais.
Il y a bien par moments où le cucu est pas très, très propre.
Et pas nénette. C'est ça, exactement.
Mais sur un chien blanc, ça se voit encore un peu plus.
Et bah, c'est ça. On n'a pas trouvé la crotte magique blanche qui ne tâchera pas l'arrière-train. C'est bien dommage.
Alors, d'où l'histoire du pôle Nord, parce que justement là, c'est en jamais.
Eh oui, exactement. Tout est lié, tout fait sens, hein, c'est vrai.
Merci pour cette rencontre.
Je vous en prie, merci à vous. Très belle journée.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Champagne-Ardenne.
Le vol du trésor de la cathédrale, un trésor royal conservé de nos jours au palais du Tau, juste à côté. Mais dans les années 40, ce trésor reposait au cœur même de la cathédrale, dans une petite salle juste à côté de la sacristie. Pas d'alarme, pas de caméra, pas de gardien de nuit. Un autre temps, me direz-vous? Et pour certains, en tout cas, c'était une sacrée opportunité. Tout commence à Paris, le 8 juillet 1946. La nuit tombe, trois hommes montent dans une camionnette. Claudius, Marcel et Ernest. Direction Reims. Leur mission, voler le trésor de la cathédrale. Claudius, c'est le chef de bande. C'est un vieux routier du crime. Un casier judiciaire long comme un missel. 25 condamnations, 15 ans de travaux forcés et 6 évasions. Un sacré jojo, un artiste de la fuite. Et c'est lors d'une visite à Reims, en 1941, quand il n'était pas en prison, qu'il a repéré le fameux butin. Et il s'est dit, quand la guerre sera finie, je ferai mon dernier coup. Et bien dans la nuit du 8 juillet 46, Claudius et Marcel dressent une échelle contre un mur de la cathédrale. Tiens donc, ça nous rappelle le Louvre, cette affaire. Ils scient un barreau de la fenêtre et s'introduisent dans la salle du trésor. Devant eux, trois armoires blindées à forcer. Dedans, 150 kilos d'objets précieux. 5 couronnes, des sacres de Charles X et de Napoléon Ier. Des vêtements liturgiques brodés d'or portés par les rois de France. Tout y passe. Le trésor est déposé chez un complice. Mais la joie des bandits est de courte durée. Les 5 couronnes, eh bien des copies. Du bronze doré, pas d'or massif. Lucien les fait fondre, les jette dans le canal. Quant aux habits liturgiques, invendables, ils disparaissent dans la nature. Seuls les fils d'or en sont tirés. Les vêtements, eux, ne seront jamais retrouvés. Claudius, fidèle à sa réputation, finit par se faire arrêter. Mais avant le procès, il s'évade une nouvelle fois. La police va quand même le rattraper. Son procès s'ouvre en 1956, devant la cour d'assises de Reims. Verdict, 10 ans de travaux forcés pour Claudius, 3 ans pour ses complices. En 1972, le trésor de la cathédrale de Reims sera transféré au palais du Tau. Le trésor de la cathédrale de Reims, c'est évidemment l'un des trésors de Champagne-Ardenne.
Vous écoutez Ici. 1, 2, 3, 4.
You better show me now, show me.